En studio, les créateurs de la BD intitulée « Géant au pied d'argile, géant au pluriel ». Il s'agit d'Alain Chevalier et de Mark Maguire. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Ça me fait bien plaisir de vous accueillir pour parler de cette BD que j'ai beaucoup aimée, « Géant au pied d'argile ». Et c'est un beau travail d'équipe, scénario de Mark et d'Alain. Dessiné par Alain Chevalier et c'est une BD qui a été traduite de l'anglais par Marc Tessier. Ça veut dire que la BD a déjà existé, existe déjà en anglais.
En fait, je vais expliquer ça. C'est un petit peu, on a travaillé pas à l'envers, mais Marc étant anglophone et moi étant marié à une anglophone, on a parlé beaucoup en anglais au début quand on s'est rencontrés.
Ouais.
Puis quand on s'est mis à écrire le projet, c'était comme naturel de l'écrire en anglais. Et c'est par la suite qu'on a rencontré Marc Tessier, puis qui lui nous a dit qu'il faut qu'on le fasse en français. Et donc, c'est de là que le projet en français est né, dans le fond, avant le projet en anglais.
OK. Alors, le projet anglais va-t-il se réaliser un jour?
On est en processus maintenant pour que ça se concrétise.
Là. Très bien. Avec la même maison d'édition?
Non, eux, ils publient en français, principalement. Okay. Donc, ça va être... on va à la pêche.
Bon, alors, bonne pêche. Mais en attendant, on peut pêcher la BD en français. Je cite des phrases du dossier de recherche. On décrit votre bande dessinée comme ceci. « Ce récit aux enjeux familiaux contemporains se veut une méditation tragicomique sur la masculinité et sur les problèmes qui en découlent à travers une histoire qui touche trois générations. » Est-ce que vous trouvez que la personne qui a écrit ce communiqué a saisi le propos de votre bande dessinée?
Oui, vraiment, oui. En fait, c'est Alan et moi et Mark. On a travaillé ensemble pour réviser la présentation de notre texte sur la quatrième couverture.
D'accord, alors ouais. Ça ne peut pas être plus juste. Mais quelquefois, on a de la difficulté de parler de sa propre création parce qu'on n'a pas vraiment de recul, mais est-ce que ça a été un travail de longue haleine? Vous avez commencé... quand a travaillé sur ce beau roman graphique?
Nous, Alan et moi, nous avons commencé autour de 2015 ensemble. Mais j'ai commencé avec l'idée de tourner un film documentaire sur le sujet. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré Alan dans un gymnase de basketball.
Parce que vous êtes un joueur de basketball.
Oui, ex-joueur de basketball. Puis,
Alain aussi?
Oui, moi, ex et présent, là. Okay. J'ai pas pris ma retraite.
Puis, Alain et moi, on a trouvé tout de suite qu'il y a des liens importants dans notre bagage, dans notre histoire personnelle. Le grand-père d'Alain était un prisonnier de guerre dans une stalag en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mm-hmm. Puis mon père, c'est un ex-soldat américain pendant la guerre en Vietnam. Donc, pour nous deux, les réverbérations de traumatisme d'une génération à l'autre, c'était un sujet que nous, on avait réfléchi depuis longue date. Puis, Alan, il m'a montré un tableau qu'il a fait d'un navire qui présente un peu les fantômes qui lui hantent de l'histoire de son grand-père. Mm-hmm. Quand j'ai vu ça, j'avais pensé, peut-être nous deux, on doit collaborer sur un projet. Alan, il avait toujours le basket dans sa tête. Il m'a invité de jouer avec lui. Moi, j'ai mis ça sur la glace, mais j'ai accepté de travailler avec lui sur le BD.
Alors, le basket est bien présent, d'ailleurs, dans la BD. Et donc, si je vous suis bien, il y a beaucoup de vérité. Il y a de la fiction, mais il y a de la vérité dans cet ouvrage-là.
Oui, on s'est permis de partir sur un canevas qui nous ressemblait parce que c'est sûr que c'est des thèmes qui sont forts, qui sont d'actualité, mais on voulait que ce soit incarné, on voulait pas que ce soit didactique. Alors, on s'est basé sur des choses qu'on avait vécues ou de gens qu'on connaissait qui avaient vécu. Puis c'est à partir de là qu'on s'est mis à raconter l'histoire pour que ce soit une fiction.
Mm-hmm. Comment vous la racontez, l'histoire?
Quand je la raconte aux gens?
Oui.
Ce que vous avez lu tantôt, là.
Mais non. C'est beaucoup autour de Pat et Mathieu.
Oui, c'est l'histoire de deux pères progressistes qui essayent...
Deux pères progressistes.
Oui, vraiment progressistes, parce que les deux papas là-dedans, ils veulent s'occuper de leurs enfants comme il faut. Ils veulent éviter de répéter les mêmes erreurs que leur propre père, grand-père, que tout le monde s'est passé de génération en génération, puis se rendre compte que malgré leurs meilleures intentions, c'est très difficile.
De briser le cercle.
De briser. Même si on y arrive, on nage à contre-courant. Donc, même si on y arrive un peu, ça reste difficile. Puis c'est dur à comprendre quand on n'a pas de recul. Puis quand on s'occupe d'enfants, on a très peu de recul, surtout quand ils sont petits.
Oui. Est-ce que vous avez pensé cette œuvre-là pour des hommes en particulier?
Non, pas vraiment. C'est pour tout le monde, là. Parce qu'il y a un personnage qui ressemble beaucoup à ma mère. Donc, les femmes dans la soixantaine, qui a maintenant le même âge que ma mère, 75, ils ont nous donné des feedbacks très positifs.
Mm-hmm.
Mon fils, il a 12 ans. Il avait lu toutes les versions de ce livre-là. Il avait partagé avec ses amis, notre voisin. Puis des jeunes gars de son âge aussi, ils ont trouvé des choses intéressantes pour eux.
Ah oui.
Puis aussi, Alan, il peut peut-être ajouter un truc, mais de plus en plus, on voit des femmes, mettons, on était au Salon de livres à Rimouski le week-end dernier, puis il y avait des femmes qui avaient acheté pour, mettons, mieux comprendre leurs hommes, mettons, leurs partenaires ou leurs pères, qui avaient la misère de s'exprimer.
Mm-hmm.
Donc, c'est un peu ça, oui.
Est-ce qu'il y a de l'espoir, vous pensez, parce que vous parliez de vos pères-grands-pères qui ont fait la guerre, et la guerre qui les a traumatisés et qui finalement traumatise leurs descendants, leurs descendantes, les figures masculines qui vont les suivre?
Mais je pense que dans le livre, il y a des soupçons d'espoir,
ouais.
Qui sont un petit peu partout. À un moment donné, dans une scène où Mathieu, le personnage qui me ressemble, sur lequel je suis basé, il est à l'hôpital, il se fait enlever son plâtre. Et le médecin qui lui parle de vétérans, de patients qu'il avait eu, qui étaient aussi des vétérans de guerre. Et une chose qu'il dit, puis ça, cette chose-là est vraie, mon grand-père m'a dit à un moment donné que il avait quitté la France après la guerre, parce que lui, il avait été prisonnier il s'évadait tout le temps. Parce qu'il y avait la bougeotte, puis il était fatigant. Puis il s'est ramassé dans un camp de représailles qui était en Ukraine. Puis là, c'était l'enfer sur Terre. Juste à côté de camps de concentration, où ils étaient les prisonniers français devaient activement, les Allemands les forçaient à participer à leur boucherie. Et quand mon grand-père a refusé, il s'est fait casser le dos. Alors, après avoir vécu tout ça, avoir vu tout ça, revenir dans son petit village du sud de la France pour redevenir le barbier du village depuis 9 générations, ce que ça, il tentait pas de faire anyway, il a décidé, non, on prend nos clics, nos clacs, on prend le bateau, puis on s'en va au Canada. Fait qu'ils sont venus s'installer à Montréal. Puis, quand il m'a raconté ça, il dit, quand je suis parti, c'était parce que 90% des hommes qui étaient au camp de Ravarouchka sont devenus fous, après.
Aïe.
Et il dit, moi, je voulais pas devenir fou, je me suis dit, je me remets dans une position de survie, où tout est neuf, où je connais rien, puis il dit, c'est comme ça que je m'en suis sorti. Alors, il y a le fait, puis bon, cette histoire-là est intéressante en soi, mais ce que le livre souligne, puis ce que le médecin souligne, c'est que Mathieu est chanceux que son grand-père se soit ouvert à lui. Puis donc, il y a de l'espoir, même dans les choses les plus difficiles. Je pense qu'il y a de l'espoir parce qu'il y a une volonté.
Ouais.
Simplement que c'est extrêmement complexe.
Il faut être patient, puis quand la communication finit par se passer, c'est ce qui fait qu'on peut avancer, évoluer. Il y a un personnage, je pense que c'est Pat qui a de la difficulté avec sa clé. Ben c'est sa main qui tremble. Il y a le corps aussi qui parle à travers ce genre de douleur-là. Il y a beaucoup de rage aussi, mais ça ne s'exprime pas de la même façon que la rage s'est exprimée peut-être par les pères ou les grands-pères. Mais il y a quand même un traumatisme, il y a quand même des blocages chez les deux personnages, Pat et Mathieu. Par rapport aussi au rôle que ces deux personnages-là entretiennent, ben, ils sont pères de famille et ils ont aussi de la difficulté à être pères à la maison. Alors, est-ce que vous trouvez qu'il y a quand même eu du chemin qui s'est fait par rapport au rôle du père d'aujourd'hui, là? Est-ce que vous trouvez que les mentalités changent assez rapidement Parce que les pères sont quand même assez jeunes, là, Pat et Mathieu, puis ils ont de la difficulté à se retrouver seuls avec leurs enfants. Surtout Pat.
Oui, je pense que les mentalités évoluent beaucoup, mais c'est juste quand tu essaies de mettre les mains dans le pat dans la maison,
ouais.
On est confronté tout de suite par la pénurie de bons modèles masculins dans notre vie. Puis sans modèle, c'est difficile d'actualiser notre idéal. Puis tantôt, tu demandais à nous la question d'espoir. Puis moi, j'ai trouvé beaucoup d'espoir en le fait que Alan et moi, nous avons réalisé notre œuvre, notre bande dessinée, on a terminé. Puis maintenant, c'est dans la main de notre lectrice, lecteur.
Oui.
Puis on a déjà eu plusieurs bons commentaires par texto, par courriel. Une collègue de ma femme, avec qui elle travaille depuis 10 ans, elle avait lu, elle était beaucoup émue, puis elle avait dit, elle donnera ce livre pour un cadeau de Noël à son chum, qui a la misère de s'exprimer depuis toujours. Puis aussi, il y a le fait que entre nous deux, on avait trouvé beaucoup de l'entraide mutuelle,
mm-hmm.
en parlant de nos expériences, et aussi le fait que nous avons canalisé nos émotions dans un livre. Comme ça, c'est extérieur de nous. Puis au début, moi, j'ai manqué de confiance de partager des choses sur ma vie privée. Ça prend plusieurs versions. Au début, on avait eu un troisième homme dans l'histoire. Puis nous, puis moi, particulièrement, j'ai donné toutes des choses vraiment difficiles, des choses que j'avais honte. J'ai attribué à cette troisième personne, un peu parce que j'avais peur d'associer avec le caractère qui ressemble beaucoup à moi, le gars qui a quasiment 7 pieds de grandeur. Mais à la fin, Alan m'a convaincu que je dois assumer ces histoires-là et ça va nous donner une histoire plus intéressante et plus authentique. Ouais.
Est-ce que vous avez vu le processus de création comme une sorte de thérapie?
Ben, en fait, ayant été en thérapie, je sais très bien par la psychologue que je voyais que la création, qu'on le veuille ou non, ça a un effet thérapeutique.
Ouais, ça nous permet de ventiler.
Ça permet de faire sortir des choses qui vivent difficilement en nous. Puis à partir du moment où elles sont à l'extérieur de nous, c'est pas qu'elles n'existent plus, mais sont plus faciles à vivre. C'est comme si de tout à coup, le fait qu'elles vivent à l'extérieur et à l'intérieur, ça devient moins lourd, ils ne sont pas coincés en dedans de nous, ça existe ailleurs. Mais pour revenir à l'espoir, il y avait une chose que je voulais dire aussi, c'est que une des raisons pour laquelle ça a aidé, c'est que on a fait ce livre-là, ça a été 7 ans de travail.
7 ans?
Oui. Puis, comme on disait, beaucoup de versions. Tuer un personnage, il y a 5 ans, on avait un script déjà terminé avec des dessins, beaucoup de dessins de fait. Des heures et des heures, des centaines d'heures de travail. Puis Pat a eu le courage de dire « OK, moi, je vais assumer cette partie-là. » J'ai fait comme « OK. » Notre troisième personnage était plus le fun de toute façon. Puis nous deux, nos personnages de Pat et Mathieu avaient l'air plates en comparaison.
Ah
parce
ouais.
que, ouais.
C'est pour ça que vous l'avez éliminé.
Ben, oui, exactement. Là, il nous volait,
par jalousie. Là.
Par jalousie, oui. Mais ça a rendu nos deux personnages un peu plus tridimensionnels,
ouais.
avec plein de défauts intéressants, parce qu'un personnage doit avoir des défauts intéressants pour qu'on l'aime.
On y croit à vos personnages, là.
Ben, on les a vraiment bonifiés
ouais.
à ce moment-là. Puis c'est drôle, on a chacun... Ce moment-là a été difficile pour Pat. Pour moi, ça a été quand est venu le temps de faire les dessins finaux, il a fallu que je trouve une façon le plus simplement possible de rendre des dessins qui étaient à la hauteur de ce que je voulais. Mais c'est un challenge. Moi, j'ai appris à dessiner pour que ce soit beau et non pas pour que ce soit efficace. Et donc, sachant que j'ai 240 pages de dessiner là-dedans. C'est une montagne, c'était une année complète de travail. De commencer dès le départ et de faire les bons choix quand on sait qu'on a un an et des centaines, quasiment des milliers d'heures de travail devant nous, c'était extrêmement stressant.
Ah oui.
C'était beaucoup de pression et c'était dur à vivre. Puis Pat essayait de m'encourager. « Mais non, Alain, t'es capable. Tu fais juste simplifier ton dessin. » J'étais comme « Fais juste simplifier ton dessin. De quoi tu parles? Je vais rusher ma vie. » Puis finalement, ça s'est passé. J'ai été capable de laisser aller des choses, puis de faire un dessin qui communiquait ce que je voulais. Puis c'était un travail difficile. Puis la dernière chose qui est une réussite, c'est qu'on a fait ce livre-là sans abandonner nos enfants. On n'est pas allé se cacher, on a continué à être présent. Puis c'était un début de départ, c'était de ne pas devenir comme les modèles qu'on a d'artistes qui ignorent leurs enfants pour s'occuper uniquement de... Mm-hmm. C'est un modèle
j'ai pas
toxique,
le temps, j'ai pas le temps,
j'ai pas le temps. Ben oui, il faut que je fasse de la création. Puis les artistes, on a une mauvaise réputation, mais on travaille, on est des fourmis, là. Les fourmis, c'est nous. Et des fourmis souvent mal payées. Donc, ils doivent travailler deux fois plus. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que ça a été aussi long, c'est parce qu'on n'a pas voulu sacrifier notre vie familiale pour le projet.
Et vous parliez que vous faisiez du beau peut-être avant de faire cette... mais je ne suis pas en train de dire que c'est du lait, mais vous avez été authentique. Vous parliez, Marc, d'une démarche authentique par rapport à votre personnage qui était un peu dilué par le troisième personnage. Mais c'est un peu la même démarche aussi avec vous, Alain, par rapport à votre travail d'illustrateur. Vous avez fait les dessins qui correspondaient exactement à ce qui était raconté. Et la présence des femmes dans cette BD, qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus?
Mais ma femme, Rotem, est le champion de ce livre-là. C'est elle qui m'a soutenu depuis toujours.
Qui est Esther dans la BD?
Qui est Esther dans le BD. Puis elle me donnait le feu vert de parler de notre vie intime, de notre parentalité, de notre relation avec la famille. Puis elle avait croyé beaucoup dans notre collaboration. Puis elle aussi, ma mère. C'est ma mère la gardienne de les secrets familiales.
C'est elle qu'on voit en vrai, hein? Une photo en noir et blanc, quelque part?
Oui, c'est une photo de sa journée de mariage clandestine avec mon père
à Hawaï,
oui. Puis j'ai trouvé cette photo dans une boîte de diapos de la guerre en Vietnam. Parce que c'était juste un petit congé entre deux batailles pour mon père. Puis quand j'ai trouvé cette diapo, j'ai posé plein de questions à ma mère, mais qu'est-ce qui arrivait en Hawaï avec papa? Parce qu'elle m'a jamais partagé son expérience. C'était trop honteux pour elle.
Pour l'époque, en tout cas.
À l'époque.
Ouais, ça se disait pas.
Exactement, oui. Puis ses parents étaient contre le union avec mon père pour plusieurs raisons. Puis,
très belle photo.
Merci
avec
beaucoup.
Le chapeau.
Oui.
Des années quoi, 60?
C'était... 1968, je crois.
1968.
Excuse-moi.
Les 68. Années 68.
Oui.
Et puis, le noir et blanc, c'était naturel que ça soit ici?
En fait, en travaillant... oui, au départ, je voulais la faire en noir et blanc.
Je ne suis pas revenue avec vous par rapport aux femmes. Là. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à dire.
Oui, en fait, parce que on s'est posé la question. Et on a en ce moment une histoire qui est très féministe sur des papas progressistes racontés par deux hommes blancs. Et on veut que ce livre-là soit une porte ouverte ou une fenêtre et non pas, on va prendre la place encore une fois, nous les gars. On voulait que ce soit quelque chose qui soit bien dosé. On parle des femmes, des femmes des deux personnages, puis il y a d'autres personnages féminins. Il y a une collègue aussi de professeur de cégep qui est présente. Leur rôle dans le livre, c'est de ramener nos deux personnages à leur contradiction à leur contradiction par rapport à leur identité de progressiste, mais de leurs actions qui sont souvent, qui ne le sont pas du tout, qui sont ancrées dans le patriarcat, dans les choses qu'on a apprises, dans les choses qui sont encore omniprésentes dans la société. C'est là-dedans qu'on vit. Et puis, ça met en valeur le fait que même avec des bonnes intentions, c'est difficile. On n'y arrive pas nécessairement. Et on ne voulait pas les oublier non plus. Donc, à la fin, le dernier chapitre sert à les rencontrer. Et on voulait passer le test de Bechdel, qui est je ne sais pas si vous connaissez, c'est un test de cinéma où dans un film, pour qu'il passe le test, il faut qu'il y ait au moins deux femmes qui se parlent, qu'il y ait une longue conversation, qui parlent d'autre chose que des hommes.
OK.
On l'a pas fait exprès, là, mais quasiment. Mais on voulait que les femmes parlent d'elles aussi. Alors, dans le dernier chapitre, ça nous permet d'aller à leur rencontre aussi pour comprendre encore plus la position de ces deux gars-là qu'on a suivis pendant 200 ans.
Et c'est fait avec sincérité, là. C'est pas par opportunisme.
C'est
ça. Tout,
non. C'est... Puis ça nous avait été conseillé aussi par Marc Tessier, qui est scénariste.
Mm-hmm,
qui a traduit. Mais avant ça, il nous disait, on veut les connaître, les femmes. Puis on disait, ouais, mais on veut pas justement que ça a l'air opportuniste. Il dit, non, on veut savoir c'est qui. Puis à la fin, vu que vous voulez finir sur une note qui est ouverte et optimiste, on veut les entendre, on veut savoir ce qu'elles en pensent de cette vie-là. Surtout après on les a suivies dans leur quotidien, les femmes sont présentes, mais qu'elles puissent faire une espèce d'état des lieux à la fin, même si c'est pas directement ça, ils parlent de leur vie, ils parlent de ce qu'ils font, mais comment dire, leurs vies ne sont pas profondément bouleversées par les démarches de leur mari. Elles continuent, puis il y a un support mutuel là-dedans. Donc, c'est ça l'optimisme, je pense, pour les femmes.
Et puis, on revient au noir et blanc. Est-ce que ça a été une décision que vous avez prise dès le départ, vous deux ensemble, Alain Chevarier et Marc Maguire?
Ben ça, c'est plus moi, je pense. On commençait à faire les croquis chez Marc, souvent. On mangeait le lunch, puis avant et après, je dessinais, puis on parlait. Puis ça se faisait au crayon mine. Puis j'ai vu travailler Isabelle Arsenault. Je suis réalisateur aussi dans la vie, puis j'ai fait une capsule pour...
À la Fabrique culturelle.
À la Fabrique, sur Isabelle. Puis elle m'a invité chez elle. Je lui ai dit, fais attention, je fais de la bande dessinée, je vais te piquer tous tes trucs. Puis elle a dit, oui, c'est correct. J'espère qu'elle est toujours d'accord avec ça. Mais en voyant sa technique de travail, où elle joue des fois avec quelques couleurs, je me suis dit, OK, je pense que je peux assumer le noir et blanc. Je peux assumer le crayon mine. Je travaille beaucoup à l'efface. Là. Il y a beaucoup de... C'est pour ça que c'est très doux. J'ai travaillé beaucoup en saturant une efface de crayon mine puis en m'en servant pour dessiner, pas juste pour enlever. Alors, le dessin, je voulais que le dessin soit... Mais l'histoire est super délicate. Je voulais que ça reflète ça. Il y a aussi le côté où ça me permet d'exprimer beaucoup de choses que les gens disent ou ne disent pas avec le dessin.
Vous voulez ajouter quelque chose, Marc?
Mais au début, Alan, il a commencé avec l'idée de faire en couleur aussi avec des crayons de mine en couleur. Puis, on avait fait des tests, on a commencé, mais finalement, je pense que les ombres en gris étaient très importants pour présenter les nuances de notre personnage.
Les nuances. C'est ce que j'ai apprécié de cette BD, les nuances, notamment. Et il y a une belle couverture, belle page couverture en cartonné, en couleur. Géant au pied d'argile, Alain Chevarier, Marc Maguire, avec deux citations. Je vais en lire une avec podcast, que c'est tiré d'une chanson. Tu sais que l'ours n'est pas vraiment méchant, il a peur. Merci beaucoup, puis bravo pour cet ouvrage. On sent le travail, on sent l'amour aussi. C'est profondément humain et franc. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Merci beaucoup,
Bon
Alan.
Succès.
Merci.